Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Rien n'est plus sexy que l'intelligence, vous en conviendrez. On va donc cheminer pendant une heure avec un écrivain dont l'esprit et le talent de plume, donc le pouvoir attractif, sont hautement irradiants. C'est Éric Nehoff qui publie chez Albin Michel, Rentrée littéraire. Bonjour et bienvenue Éric Nehoff.
Bonjour Isabelle Morizet.
Éric Nehoff, écrire c'est d'abord savoir regarder le monde, mais pas seulement. Il faut de la frustration pour écrire. Il n'y a pas de littérature sans frustration.
Vous croyez ?
Je vous pose la question.
Il n'y a pas de vie sans frustration.
Carrément.
Bah oui, il y a toujours quelque chose qui vous manque. Et quand on écrit, c'est pour rendre la vie plus complète, plus pleine, plus agréable.
Victor Hugo disait que la mélancolie, c'est le bonheur d'être malheureux. Il y a de ça dans la nostalgie. Hein. La nostalgie, c'est le bonheur douloureux à se remémorer ce qui n'est plus. Et vous-même, au dos de couverture de ce livre, vous confiez... Rentrée littéraire est un roman nostalgique. Mais est-ce qu'il suffit de savoir qu'on a été heureux pour l'être encore un peu ?
Bah oui, parce que les souvenirs, c'est beau. Et que pour un romancier, la nostalgie, c'est un peu comme la farine du boulanger. C'est se souvenir des choses qui ne sont plus, qui sont passées. Et c'est une façon de les revivre une seconde fois. Mais il ne faut pas non plus que la nostalgie bascule complètement dans la mélancolie, parce que ce serait trop moche, trop triste.
Donc, c'est la farine du boulanger de l'écrivain.
Pour les romans.
Hein. Pour les romans, voilà.
Parce qu'on peut écrire des chroniques, des poèmes, ça, il n'y a pas besoin de nostalgie, mais un roman, c'est quand même toujours un petit peu sur quelque chose qu'on a perdu, qui n'est plus. C'est le début de La ferme africaine de Karen Blixen, quand elle dit « I had a farm in Africa », on est parti ailleurs et on sait qu'il y a ce sentiment de perte qui est ineffaçable.
Alors Éric Nehoff, avec ce livre, on goûte la finitude d'un monde qui s'attarde encore un peu. Paris n'est déjà plus Paris, sauf dans les souvenirs et dans quelques brasseries qui ont connu l'ambiance des films de Claude Sautet et qui bientôt fermeront, remplacées par des boutiques de fringues. Vos héros, Pierre et Claire, sont éditeurs. Ils vieillissent, mais sortent encore beaucoup et s'accrochent au plaisir du temps d'avant, c'est-à-dire boire, fumer, jouir égoïstement de la vie et s'en trouver bien. Éric Nehoff, en fait, vous avez eu le malheur d'avoir eu 20 ans au milieu de cette période bénie des années 70 et vous ne vous en êtes pas remis.
Ah oui, c'était à la fois un cadeau et une malédiction, parce que quand on voit ce que c'est devenu, c'est pour ça que je voulais écrire un livre qui fasse un peu l'éloge de tous ces endroits qui sont en train de disparaître, comme vous disiez, les brasseries, les restaurants, les cinémas, les librairies, parce que j'adore les librairies, les livres en papier. Tout ça qu'on pensait éternel et qui est en train de devenir complètement...
Ah oui, j'imagine que vous ne supportez pas le concept de l'édition numérique.
Ah non, ça je suis totalement contre. Parce qu'en plus, c'est pour des raisons tout à fait égoïstes, c'est que l'édition numérique, les Kindle, ou je ne sais pas comment on appelle ça, si quelqu'un est en train de lire un livre, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Vous ne voyez pas la couverture, vous ne pouvez pas dire « Ah, vous lisez ça, je l'ai lu aussi ». C'est une absence de contact. Et la littérature, c'était tellement un espéranto, les films, le cinéma. Les gens ne parlaient que de ça à l'époque. Aujourd'hui, à table, de quoi est-ce qu'on parle ? Du Covid, de bouffe et d'argent, c'est tout.
Bon alors, cette phrase qui fait un peu phrase de comptoir, mais tant pis, c'était mieux avant. Vous la revendiquez avec un désenchantement de survivant, c'est ça ? C'était mieux avant, Éric Nehoff ?
Dans l'édition, oui. Dans le cinéma, oui. Le reste, je ne sais pas. Mais je crois qu'il y aura toujours un noyau dur de gens qui s'intéresseront aux livres et aux bons films, et heureusement. Mais ce sera vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui une niche. Et ce seront des sectes un peu cachées, avec des mots de passe entre eux. Ce sera beaucoup plus difficile qu'avant, parce qu'il y a eu une époque où les livres qui sortaient, moi quand j'étais gamin, tout le monde lisait par exemple les romans de Robert Sabatier. Les sucettes à la menthe, les animettes suédoises. Et aujourd'hui, quel est le livre, à part Houellebecq, dont tout le monde parle? Il n'y a plus ça, cette espèce de langage commun. Ça s'est fragmenté, ça s'est délité. Et c'était pour ça que je voulais écrire un livre qui se passe dans le milieu de l'édition, parce qu'il me semblait que c'était une profession qui était très très peu traitée dans les romans. Et aussi, je voulais rendre hommage à ça sous la forme d'un roman, parce que pour moi, le genre du roman est vraiment la chose essentielle.
Alors justement, avec ce nouveau roman qui nous fait arpenter la rive gauche avec le milieu de l'édition, ces roueries, ces rituels, ces prix d'automne qui vont toujours à de mauvais livres, écrivez-vous.
Oui, eh bien, souvent. En
tout cas. On part à la rencontre de Pierre, votre héros un peu là, qui se demande s'il ne va pas vendre sa maison d'édition, qui intéresse un grand groupe. Un Goncourt arrangerait bien ses affaires, car l'URSSAF lui a mis un contrôle sur le dos. Mais bon, voilà, les prix ne sont jamais pour sa maison d'édition, qui ignore les réseaux sociaux et ne cultive que le plaisir de la lecture. Bref, une maison d'édition qui meurt à petit feu, peut-être comme la littérature.
Non, mais l'édition à l'ancienne, oui, est en train de changer complètement. C'est que maintenant, et la presse aussi d'ailleurs, c'est que tout ça est dirigé
par... La presse est moins grave, mais la littérature...
Oui, mais parce que la littérature n'a besoin de personne. Donc, je pense que c'est plus grave que pour la presse. Que la presse a besoin de financiers, de patrons de presse, alors qu'un livre, il suffit que quelqu'un avec du talent, un stylo et un crayon, écrive un chef-d'œuvre et ça existera toujours. Alors qu'un journal, ça a besoin de quelqu'un qui a de l'argent et qui a envie que les lecteurs aillent dans un kiosque lire les nouvelles. Et ça, j'ai très peur que ça disparaisse beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Mais c'est lié, hein, les deux choses.
Les deux sont liées. Éric Neuhoff, je voudrais parler de votre style, parce que dans l'exercice de l'épure, vous êtes assez prodigieux. On le sait, pas d'adjectif, pas d'adverbe, mais juste la peinture la plus puissante qui soit, avec une économie farouche de mots. Voilà, juste les mots les plus justes. Pour nous faire comprendre le miracle de la grossesse, par exemple, vous écrivez, je trouve cette phase absolument magnifique, vous écrivez « Son ventre était rempli d'avenir
». Je ne me souvenais pas, oui, mais ça va.
Mais quelle est belle cette phrase.
Je sais pas, ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Mais totalement, et mieux encore. Vous ne devez pas être heureux quand vous lisez Proust, alors.
Avec ces phrases
kilométriques.
C'est parce qu'il comprend tellement bien la psychologie et c'est tellement tout ce que je n'arriverai pas à faire que j'admire ça.
Là, vous pêchez par excès d'humilité.
Proust, quand même. C'est pas rien. Le type qui dira « je peux faire la même chose ».
Mais l'exercice qui consiste à épurer, écrire à l'os avec juste sujet, verbe et complément et... En fait, donner une image d'une puissance faramineuse, cet exercice-là, il est virtuose quand même.
Je sais pas, il suffit de couper les choses qui ne vont pas. Et puis parce que moi, j'ai tellement peur de m'ennuyer en lisant que je ne voudrais pas faire la même chose en écrivant. Donc, j'ai envie que ça aille vite. Et en plus, le cinéma nous a appris à aller très vite, à supprimer les descriptions, parce qu'il suffit d'un détail pour recréer toute l'ambiance qu'il y a autour. Il faut supprimer toutes les phrases un peu superflues.
Donc vous écrivez de façon cinématographique.
Oui, j'essaie.
Et puis, il y a un sujet plusieurs fois abordé donc, dans ce nouveau roman, Rentrée littéraire, qui m'intrigue beaucoup. C'est celui de la première phrase d'un livre. D'ailleurs, avec ironie, vous faites dire à l'un de vos personnages qui est écrivain que s'il a la première et la dernière phrase, le livre est écrit. Mais plus sérieusement, cette première phrase...
Non, mais c'est sérieux. Moi, je pense...
Vraiment, c'est comme ça que vous fonctionnez, vous, Éric Neuhoff ?
Exactement. Après, il n'y a plus qu'à remplir les blancs. Le travail est fait. Mais il faut les trouver.
Oui, il n'y a plus qu'à remplir les blancs sur 300 pages.
Oui, voilà.
Voilà. Bon, mais cette première phrase, c'est comme un code d'entrée. C'est une promesse, c'est un révélateur. Et il y a des premières phrases qui sont rédhibitoires. Vous en donnez des exemples, d'ailleurs, dans votre roman. Vous écrivez, par exemple, là, je vous cite, « Son texte commençait ainsi... » Je me souviens des jours indicibles. Alors, ça, c'était pas la peine d'aller plus loin.
Oui, mais ça, c'est le manuscrit que reçoit l'éditeur.
Oui, bien sûr, pour faire comprendre. Parce que voilà, il y a plein d'auteurs qui doivent se dire ouais, c'est joli, c'est accrocheur.
Mais vous continueriez un livre qui commence comme ça ?
Non. Bon, je suis comme vous, je refermerai. Ou par exemple, une brume de chaleur saupoudrait l'horizon. C'était la première phrase. Pierre referma le manuscrit. Ouais. Est-ce qu'il existe un panthéon de la première phrase chez les écrivains ?
Bah oui, par exemple. J'y pense tout d'un coup, la première phrase des Gens de la nuit de Michel Déon, c'est « Cette année-là, je cessais de dormir ». Eh bien, on continue.
Bien sûr.
Alors que la première phrase de Proust...
Longtemps, je me suis couché de bonne heure.
C'est pas si terrible que ça.
Mais c'est ça, justement, je voudrais savoir.
Mais
parce que
le livre est tellement génial, enfin, les livres sont tellement géniaux que du coup, on trouve que cette phrase est formidable.
Parce que c'est la première du côté de chez Swann et elle a imprimé vraiment la mémoire de tellement de générations de lecteurs. Ouais. Vous trouvez pas que ce soit franchement justifié ?
Mais je comprends que les éditeurs qui ont eu le manuscrit à l'époque aient été un peu réticents en lisant ça, oui.
Alors, au cours de ce récit, donc dans Rentrée littéraire, vous nous offrez un modèle, par exemple, de première phrase qui ouvre le manuscrit de l'un de vos héros. « Je suis revenu boulevard Gambetta, où dormait mon enfance. Il est toujours en pente. » Bon, cette phrase-là, elle aurait pu ouvrir l'un de vos livres.
Ouais, mais peut-être que je m'en resservirai plus tard. Vous savez, le roman, c'est un peu l'art de récupérer les restes. Hein. C'est comme en cuisine.
Comme en cuisine.
Un pot-au-feu, oui, c'est... Il y a des choses qu'on peut recycler, oui. C'est ça qui est bien avec le roman. On peut tout mettre dans un roman. On peut tout se permettre, en plus.
Bon, sauf que la première phrase de ce nouveau roman, Entrée littéraire, elle est bien plus brève et plus incisive que tout ce qu'on vient de citer. Même cette jolie phrase, je suis revenu boulevard Gambetta, où dormait mon enfance, il est toujours en pente. Ce roman, Rentrée littéraire, il démarre par « Il vieillissait ».
Allez, ça plombe un peu l'ambiance.
Non, mais vous l'avez reconnu tout de suite, cette première phrase, vous l'avez attrapée comme ça, vous n'avez jamais eu de doute, vous n'avez pas tenté d'autres entrées, d'autres levées de rideaux, elle.
Oui, c'était elle, il vieillissait, ça me semblait résumer un peu l'esprit du bouquin, et c'était « Qui sont ces îles ?» Donc c'est un couple, on voit qu'ils ont un âge un petit peu avancé, et on se dit, il vieillissait, c'est quand même un livre qui va se tourner vers le passé.
L'esprit du bouquin, c'est-à-dire ouais. Parce que ce n'est pas qu'un livre qui se tourne vers le passé.
Non, c'est un hommage à ce milieu de l'édition dont on parlait. Et puis, c'est aussi l'histoire d'un couple qui est toujours resté ensemble. Et ça me semblait tellement beau, unique et romanesque que je voulais mettre dans ce milieu qui est quand même très turbulent des gens qui sont toujours ensemble. Et c'est en ça que c'est un vrai roman. Voilà.
Et voilà, ça c'est la petite goutte de perfidie d'Éric
Noor. Non, c'est...
Voilà, parce que...
Non, mais moi j'admire les gens qui ont réussi à rester ensemble toute leur vie. Et après coup, je me suis presque demandé si c'était pas inconsciemment un hommage à mes parents qui sont toujours restés mariés. Et dans leur génération, c'était pas quelque chose d'aussi rare que ça, mais... Dans la nôtre, effectivement.
Parce que vous faites tellement attention aux convenances. Mais en vous écoutant,
oui,
je me dis que...
Oui, mais c'était peut-être pas si mal.
Vous qu'on dit parfois cruel, ouais. Et dans le masque et la plume, vous savez effectivement l'être. En fait, vous êtes un grand sentimental.
Ben, je ne sais pas, mais on n'est pas le même dans un roman qu'à une tribune de radio pour parler des films qui sortent. Heureusement, d'ailleurs.
On est l'un de ceux qu'on est,
oui,
peut-être.
Oui, peut-être. Oui,
on dans est, un roman.
Ouais. Oui, et puis dans un roman, ça permet d'être... plusieurs personnes à la fois. Moi, dans ce livre, je suis à la fois l'homme, la femme, les enfants.
L'ami, Mathieu.
L'ami.
Écrivain.
Je suis même Paris. Hein.
Et vous êtes Paris. C'est magnifique. On va parler de tout ça. On fait une pause vraiment très, très courte et on retrouve tout de suite Éric Noor.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Un écrivain est forcément un homme singulier, même s'il est doué d'humilité. Je reçois l'un des plus brillants et des plus primés de sa génération, Éric Noor, qui publie chez Albin Michel « Rentrée littéraire ». Cher Éric Noor, serait-ce parce que vous avez grandi à Cahors, puis à Toulouse, donc sur une planète magnifiquement éloignée de la rive gauche, que vous avez à ce point fantasmé Paris ?
Oui, mais enfin, enfant, j'ai grandi à Paris, mais effectivement, le fait d'avoir été adolescent en province, Paris devient une ville mythique dont on rêve, où on va pendant les vacances, parce qu'à l'époque, c'était vraiment un autre monde. Je me souviens que les films arrivaient avec 6 mois de retard par rapport à la capitale,
ouais.
Étaient toujours en version doublée, ce qui change beaucoup la donne. Oui.
Toujours ?
Oui, toujours. Et restait à l'affiche une semaine ou 15 jours maximum, il y avait un roulement. Et aller à Paris, c'était vraiment... Les boutiques n'étaient pas les mêmes du tout. Je me souviens que pour acheter des blue jeans, comme on disait à l'époque,
ouais.
Il fallait aller à Paris. Ce n'était pas trouvable dans le Lot ou en Haute-Garonne.
Incroyable. Pour, et pourtant, cette province-là, en Occitanie, voilà, ce n'était absolument pas l'ennui. Une grâce.
Puis, il y avait une singularité, comme vous disiez.
Laquelle ?
Ce n'était pas le même rythme, ce n'était pas la même nourriture, ce n'était pas la même ambiance. Les boutiques étaient fermées le lundi et pas le samedi. Mais ça change tout. C'est très, très drôle, ça.
Et aujourd'hui, il y a une uniformisation. Du temps long.
Et il n'y avait pas de rue piétonne.
Non, je sens qu'on va parler d'Anne Hidalgo tout à l'heure.
Non, je vous remercie.
Bon, Éric Noor, vous avez donc, à l'adolescence, contracté deux maladies dont on se remet rarement, la cinéphilie et l'amour de la littérature. Mais laquelle vous a touché en premier ?
Sans doute la cinéphilie, parce que c'est plus simple et plus abordable. Oui, mais en voyant des films comme Les aventuriers à 11-12 ans.
Vous êtes tombé amoureux de Johanna Shimkus.
De Johanna Shimkus, oui, mais comme toute ma génération. C'était quelque chose, on se disait que la vie, ça allait être ça, de rencontrer des filles comme ça. C'est ça qui était bien dans le cinéma et aussi dans certains livres, c'est qu'on avait l'impression que ça allait nous apprendre ce qui allait nous arriver. Et ensuite, bon, il y a des
illusions. Et ensuite, quelle déception!
Oui, mais c'est bien aussi. Mais la vie est de temps en temps décevante, mais pas toujours.
Pas toujours.
C'est ça qui est épatant.
Par exemple, pour creuser un petit peu, entre 12 et 15 ans, les premiers éblouissements au cinéma comme en littérature furent lesquels?
Ben, comme je vous disais, les aventuriers, le samouraï, les western spaghetti avec Clint Eastwood.
Oui.
Ah oui, là, c'était une vraie découverte, ça, moi, à l'époque. Je n'ai pas attendu.
Et pourtant, si manichéen.
Oui, mais.
La frontière de la caricature.
Mais les westerns, c'est fait pour ça. Il y a les bons et les méchants, sinon c'est pas la peine d'en tourner. Et en livre, bah c'était les... J'ai commencé par les Bob Moran, je dirais. Ensuite, il y a eu SAS, qui a beaucoup compté pour les garçons de mon âge. Ouais. Ah oui, c'était à la fois l'espionnage, l'érotisme à la noix, ça nous excitait beaucoup.
L'érotisme à la noix.
Et ensuite, on est passé à des choses un peu plus sérieuses. Comme moi, j'ai eu la chance d'avoir 15-16 ans quand Folio s'est lancé, la collection de poches de Gallimard. Et on achetait avec des amis chaque volume qui sortait. Et ça permettait de lire. Moi, j'ai lu Roger Nimier, Camus, toutes ces choses-là.
Oui. Julien Green.
Julien Green, le journal de Julien Green. Oui.
Bernard Franck, Paul Morand.
Non, Bernard Franck, c'était impossible à trouver. Je ne savais même pas qu'il existait à l'époque. Je l'ai découvert beaucoup
plus tard. On ne le trouvait pas dans les librairies
Non, ce n'était pas en poche.
De Toulouse ou de...
Ni même de Paris.
Incroyable.
Les premiers Bernard Franck que j'ai achetés, c'était quand j'avais 20 ans. J'ai dû aller dans les caves de chez Julliard, rue Garancière, au milieu de la poussière. Et j'ai acheté tout ce qu'il avait écrit là-bas pour rien. Mais c'est ça qui est merveilleux aussi.
Mais oui,
La
poussière qui enveloppe les trésors.
Il y a un côté snob quand on aime la littérature. C'est quand même bien de découvrir des gens que personne ne connaît et de dire tiens, lis ça, mais n'en parle pas trop. Là.
Alors, on parle de ces éblouissements dus à la littérature et au cinéma, mais le cinéma peut-il autant que la littérature, Éric Nehoff? Le champ d'expression de la littérature est plus vaste que celui du cinéma.
Oui, c'est vrai. Et avec le recul, oui, vous avez raison. Mais le problème du cinéma, c'est que c'est un art collectif. Il faut tellement d'argent, de gens, une équipe énorme pour finir un film. Parce qu'un film, ce n'est pas seulement un scénario. Tant que le film n'est pas à l'affiche aux Champs-Élysées ou ailleurs, il n'existe pas. Alors qu'un livre, même épuisé, même tout corné, poussiéreux, il sera toujours là.
Et puis peut-être, vous allez me dire si je dis vrai ou faux, mais la limite du cinéma, c'est l'émotion, c'est-à-dire c'est sa force et sa limite, contrairement à un texte.
Oui, c'est vrai que l'émotion est la qualité primordiale du cinéma.
Ça ne peut pas être cérébral, mais c'est une charge émotionnelle dévastatrice.
Mais ça peut être quand même très très beau. Il y a des films qui sont magnifiques, les premiers films de Paul Thomas Anderson, pour parler des gens actuels, mais quand on voit les Orson Welles, les premiers Godard aussi, il y avait vraiment quelque chose d'inouï, un talent fou. Et je pense que c'était des gens, ils sont très rares d'ailleurs, dont on sent qu'ils n'auraient pas pu s'exprimer ailleurs que sur un écran. Ils n'auraient pas pu écrire de roman. Et ça, c'est de plus en plus rare. Le roman, évidemment, a des possibilités infinies. Et puis, c'est sa force sur le cinéma. Pour un film, on a beau dire, il y a quand même toujours besoin d'avoir des pages écrites à la base.
Alors justement, entre Nimier, Blondin, Julien Green et Sauter, Homer ou Truffaut, arrive un âge où il faut choisir son camp. Est-ce que vous avez failli choisir le cinéma, Éric Nehoff?
Pour en faire?
Ouais.
Ah non, jamais.
Ou comme scénariste?
Non, jamais. D'abord, on ne m'a jamais demandé.
Attendez, si on ne faisait que ce qu'on vous a demandé de faire dans la vie?
Oui, c'est vrai, parce que les livres, on ne me les a pas demandés non plus. Mais je n'avais pas besoin qu'on me demande. Mais non, ça ne m'a jamais tenté comme... Je préfère garder mon œil innocent et ne pas savoir comment c'est fabriqué un film.
En fait, c'est parce que vous avez été piqué au vif par l'audace d'un jeune homme de votre âge qui s'appelait Patrick Besson et qui publiait son premier roman que vous avez sauté le pas, n'est-ce pas?
Oui, j'étais en terminale et j'ai vu que sortaient des petits mots d'amour d'un gars que je ne connaissais pas, évidemment, qui avait le même âge que moi. Je me suis dit, mais donc c'est possible, c'est faisable, et ça a été le
déclic. C'est-à-dire, précisément, quel âge?
17 ans. Ouais.
Son premier livre est sorti à 17 ans, donc vous vous êtes dit...
Oui, je suis en retard. Là.
Je suis en retard.
Qu'est-ce que tu fous?
Alors, il paraît que votre tout premier texte, c'était peut-être une nouvelle, vous allez me le dire. En tout cas, le tout premier manuscrit, Le Mercure l'a refusé.
Ouais.
Grasset l'a refusé également. C'était un texte de nouvelle, c'est ça ?
Non, le Mercure avait refusé un truc qui était un cahier écrit à la main. C'était pas une nouvelle, c'était sans doute un très très mauvais roman.
On en voit rarement des cahiers écrits à la main.
Ah bah à l'époque,
comment ça se faisait ?
Bah, je n'avais pas de machine à écrire, je ne savais pas du tout comment ça se passait. À 17 ans, vous envoyez un truc. Puis en plus,
vous n'aviez pas fait retaper.
Non, mais je ne savais même pas que ça existait de taper des manuscrits. Pour moi, un manuscrit, c'était un cahier, comme celui que vous tenez à la main.
Voilà.
Et Grasset a refusé celui qui est sorti à la table ronde, finalement.
D'accord. Et qui avait pour titre précaution d'usage.
C'est ça, oui.
Voilà. Mais en fait, comme Jean-Louis Bory signait des critiques de cinéma qui honoraient la littérature, on va dire, et c'était pour le Nouvel Obs, vous êtes mis à votre tour à signer des papiers dans la presse. Comment expliquez-vous que certains auteurs dont le talent est grand soient boudés par la postérité? Parce qu'aujourd'hui, c'est cruel ce que je vais dire, mais qui se souvient de Jean-Louis Bory?
Quelques personnes qui écoutent encore Le Masque et la Plume et qui ont mon âge. Mais ça a été quelqu'un d'important pour ma génération, là, qui écrivait dans l'Observateur, qui était éblouissant à l'oral au Masque et la Plume, même si ses choix étaient très très discutables. Mais c'était quelqu'un qui portait le cinéma à bout de bras. Il y avait lui, côté critique, et puis des gens comme Truffaut.
Oui.
Qui portait le cinéma français comme si c'était quelque chose d'essentiel et que les gens connaissaient. C'est ça qui est dramatique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus un metteur en scène français qui a l'air d'être monsieur cinéma aujourd'hui. On n'en trouve pas. Mmh. Et c'est ça qui manque terriblement.
Et Jean-Louis Bory, littérairement, vous a entrebâillé des portes, vous a montré la voie.
En tant que critique, mais le fait est que ses romans ne sont quand même pas terribles. Je m'étais forcé à les lire, mais les critiques sont vraiment...
Et comment expliquez-vous qu'on puisse être le critique le plus virtuose et un médiocre romancier?
Ah mais c'est pas la même chose, hélas, ce serait trop simple. Mais je pense que d'ailleurs, il le savait pertinemment, c'est un personnage tragique qui s'est suicidé à 60 ans. Et c'était sans doute à cause de ça, c'est parce que ces romans ne marchaient pas, ne trouvaient pas leur public, alors que c'était quelqu'un qu'on connaissait dans la rue, dont la voix était connue par tous les auditeurs. Et ça doit être dramatique, ça, au lieu de se dire « c'est pas grave ». Et ce qui a sans doute poussé à bout son pessimisme, c'est quand il a publié un livre qui s'appelait « Le pied », qui était très très mauvais, qui était un livre dicté au magnétophone, et qui a été un best-seller, alors que les romans auxquels il tenait ne se vendaient pas du tout, et j'imagine que ça a été...
Fatal pour lui.
Ouais. Mais c'est assez beau en même temps de se suicider à 60 ans.
Oui, mais pour cette raison-là. Elle a du panache. C'est-à-dire qu'un triomphe pour de mauvaises raisons, un triomphe pour le mauvais objet.
Ouais, ouais. Ouais, mais ça doit compter, hein, parce qu'il y a sans doute 1000 raisons pour lesquelles on se suicide, mais ça a dû jouer, j'imagine.
Alors, je parlais de postérité. Avec une triste ironie, vous vous demandez dans votre nouveau roman, donc baptisé Rentrée littéraire, qui paraît chez Albin Michel, vous vous demandez qui se souvient, par exemple, encore de Pierre Daninos ou de Paul Guth. Elle est donc très capricieuse, la postérité. Ouais. Elle a ses critères parfois obscurs. Vous vous en moquez de la postérité, Eric Neuhoff, vous qui croulez sous les prix littéraires.
Ah oui, j'ai déjà assez de mal avec l'actualité. Je ne vais pas m'occuper de ce qui va se passer ensuite. Ouais. Ah non, je ne croule pas sur les prix littéraires.
Ah bah si.
J'ai jamais eu le Nobel.
Non, c'est bon. Voilà. Mais alors, on va parler du Renaudot, on va parler du Grand Prix du roman de l'Académie française. Pour l'essai. Mais vous l'avez, vous en avez tellement eu qu'il ne se souvient même plus.
Il a eu
l'Interallié.
C'est dégoûtant.
Il a eu les deux magots.
Ouais.
Il a eu le Grand Prix de l'Académie française. Mais enfin.
Mais pour me racheter, je les donne maintenant, les prix. Parce que je suis généreux.
Vous êtes juré.
Et je suis vertueux, je suis même dans des jurys de prix que je n'ai pas eu, donc je ne pourrai jamais les avoir.
Alors ça, c'est
beau,
chic.
C'est beau, hein.
Oh, c'est chic, Eric Neuhoff, ça ne m'étonne pas de vous. On fait une pause très courte et on retrouve mon invité cet après-midi, l'écrivain Eric Neuhoff.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Rentrée littéraire, qui paraît chez Albin Michel, est un roman magnifiquement nostalgique. C'est aussi une histoire d'amour. Il n'y a pas de mal à ça, d'ailleurs, nous confie son auteur, Eric Neuhoff, qui est cet après-midi mon invité. Cher Eric Neuhoff, à quel âge devient-on soi-même ?
Jamais.
Jamais ?
Ouais, je crois. Ou alors, on l'est depuis le début. Je crains qu'on ne change.
C'est l'un ou l'autre.
Qu'on ne change pas. Je ne crois pas beaucoup à l'expérience. Je n'ai pas l'impression d'avoir appris grand-chose. Puis ça sert à quoi d'être soi-même ? Vaut mieux savoir qui sont les autres, c'est plus utile.
C'est vrai. Bon, mais par exemple,
on a moins d'embûches et de déceptions.
Voilà. Ouais. Ce terrible accident de voiture qui, aux alentours de vos 20 ans, vous a fait frôler la mort et vous a arraché à vos études universitaires, il a compté dans vos choix de vie ?
Je ne crois pas, hélas. ça ne m'a rien appris. C'est, vous savez, la fameuse phrase « tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Non, soit tu meurs, soit tu en sors plus faible.
Non, donc Nietzsche avait tort.
Ça m'a rendu triste parce que j'ai perdu un ami. C'est un an de perdu. Quoi. C'est, je me console en disant que sinon j'aurais été au service militaire. Mais oui, non, ça n'apporte rien. Et là, c'est quand même très, très inquiétant.
Vous avez commencé à écrire sur votre lit d'hôpital ou pour tuer le temps, justement?
Non, j'avais commencé le roman qui a finalement paru et j'ai complètement arrêté pendant l'année d'hôpital. Mais en revanche, j'ai appris à taper à la machine. C'est tout ce qui me reste de ça. Enfin, c'est le côté positif de la chose.
Voilà.
Et puis, si, il y a aussi quelque chose, c'est que quand on sort d'un an d'hôpital, où tout est millimétré,
voilà, on est
aux petits soins pour vous, on trouve
folle.
Que tout est compliqué quand on sort.
Bon,
ah oui, les métros n'arrivent pas.
Je pensais que vous alliez me dire le contraire.
Non.
Que c'est magnifique, on a faim, soif de tout. La vie vous paraît tellement sublime et solaire. Non, tout est compliqué.
Non, elle paraît sublime et solaire quand on n'y a pas droit. Mais une fois qu'on retourne dedans, on ne voit que les inconvénients. Mais c'était peut-être parce que j'étais un petit con exigeant. Mais oui, ça a été une année pour rien pour moi.
Vous n'avez jamais terminé la thèse que vous aviez débutée sur Drieux-La Rochelle et le suicide ?
Non, mais je ne l'avais jamais vraiment commencé. Je vous
avoue.
Mais non, parce qu'on ne fiche rien en fac de lettres. Je préférais lire des livres plutôt que de me lancer. C'était une façon de ne pas travailler. J'avais l'impression que...
Vous n'avez rien appris en fac de lettres ?
Non.
Vous avez même peut-être désappris ?
Non, parce que je lisais des livres, mais... Je crois qu'à partir d'un certain âge, et quand on aime vraiment ça, on n'a pas besoin de professeurs pour savoir ce que c'est qu'un livre ou la littérature. Et puis j'ai rencontré très peu de professeurs dans ma vie dont je garde un souvenir ébloui. On passe quoi, 20 ans pratiquement sur les bancs de la classe, et il doit y en avoir 3 dont je garde un souvenir convenable.
3 qui ont écrit ?
Non.
Pourquoi ? Alors, comment expliquez-vous qu'on puisse aimer à ce point la littérature, savoir l'enseigner, savoir réveiller la gourmandise des étudiants ?
Faut voir comment ils l'enseignent en général aussi. C'est pas folichon. C'est quand même très scolaire et tristounet. Il y a très peu de gens enthousiastes. Je garde le souvenir très marrant d'un prof de philo en terminale qui nous disait « il vaut mieux choper un hour que choper un rhume ». Et lui, on l'écoutait. Non, mais c'est une façon d'intéresser une classe, parce qu'il faut voir ce que c'est. Des gamins de 17 ans, on se fout de tout, on n'écoute rien.
Et elle n'est pas faite que de futurs écrivains.
L'université n'est pas un champ pour la littérature, je crois, au contraire. Et surtout maintenant, quand on voit tout ce qui se passe, c'est vraiment, vous imaginez un roman en écriture inclusive. C'est la négation de tout. Ça, c'est impossible.
Un roman en écriture inclusive. J'ai une vision de cauchemar là, soudain.
Exactement, oui, mais c'est...
J'assume.
C'est une contradiction dans les termes.
Voilà.
Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être contre. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un roman.
Alors, justement, restons sur la littérature. Éric Neuhoff, vous avouez, le problème en littérature, c'est qu'on a tous les droits. La littérature est sans doute le terrain où l'on peut le plus se délester de la morale au nom de l'art. C'est ça ?
Oui, mais enfin... On n'y pense pas, c'est pas une transgression, on est tous les personnages à la fois, et les gens ne sont pas des modèles, les personnages de romans, donc ils peuvent tout faire, tout se permettre, et puis il faut que ce soit crédible et que chaque phrase tienne avec la précédente et celle qui suit, c'est ça la loi en littérature. Tout le reste n'existe pas. Mais...
La littérature, c'est un supplément de vie par procuration, mais ça l'est autant pour le narrateur que pour le lecteur.
Oui, sans doute, oui. Mais pour moi, je ne sacralise pas la littérature. Ça fait partie des plaisirs de la vie, comme un repas avec une femme qu'on aime au restaurant, un match de rugby qu'on va voir avec des amis, se baigner dans la Méditerranée. Ça fait partie d'un tout. Mais si les gens n'aiment pas lire, moi, je suis absolument contre forcer les gens à lire.
Il y a deux types d'écrivains, ceux qui sacralisent la littérature, et les autres, j'ai l'impression que vous vous faites, si vous ne sacralisez pas la littérature, mais que vous êtes un épicurien, Dormesson, par exemple, avec cette vision.
Non, parce que je me souviens, j'étais passé il y a longtemps dans une émission de radio avec Jacques Laurent, et il y avait une romancière à l'époque qui parlait de sa souffrance, de l'angoisse, de la page blanche. Et Jacques Laurent lui avait dit, écoutez, si vous n'êtes pas faite pour ça, n'en dégoûtez pas les autres. Mais c'est tellement
c'est
vrai.
Magnifique.
Personne ne va se mettre en grève ou manifester parce que vous n'avez pas écrit un livre. Donc ça doit être quelque chose, un plaisir. Moi, quand j'entends les gens... parler de souffrance, de douleur, etc. Je ne comprends pas ça. Non, mais moi, la douleur, la souffrance, ce serait si on m'obligeait, comme on veut obliger certaines personnes à lire, à faire du bricolage ou je ne sais quoi, du jardinage. Là, pour moi, ça serait vraiment un calvaire. Mais si les gens n'aiment pas lire, ça n'est pas grave, faites autre chose.
Certains écrivains, réputés d'ailleurs, avouent lire peu, assez peu. Vous êtes quel genre de lecteur ?
Ah, moi, je lis beaucoup, oui. Ouais. Ah oui, ça me stimule, ça ne me rend pas jaloux, ça
mais
me fouette.
Mais vous ne lisez pas dans les périodes d'écriture ?
Ah si, si, bien sûr.
Et vous n'avez pas peur de vous laisser infuser, de vous laisser contaminer, ça, insidieusement, par
Oui, mais on s'en aperçoit. Si jamais ça arrive, on barre les passages en question. Non, ça, au contraire, c'est un peu comme le PO en cyclisme, de lire des livres, ça vous booste.
Éric Nehoff, pourquoi aujourd'hui la littérature française offre-t-elle si peu de romans, après avoir régné au 19e siècle et dans les années, j'ai envie de dire, les 70 premières années du 20e, justement dans ce genre ? Aujourd'hui, on est beaucoup sur l'autofiction, on est beaucoup... Mais les vrais romans ?
Ben oui, ben ça me désole aussi, parce que les anglo-saxons continuent à raconter des histoires merveilleusement bien. C'est peut-être, je sais pas, un manque d'intérêt pour les autres, parce qu'un roman, on est forcément obligé de s'intéresser à autre chose qu'à son nombril. Et l'autofiction, c'est quand même des gens qui ne regardent que, même quand ils tombent amoureux dans un livre, c'est ce qui leur arrive à eux sans décrire.
Donc c'est vraiment un mal littéraire français, l'autofiction.
Ah bah beaucoup, et j'en vois assez peu à l'extérieur. C'est Philip Roth, si on dit que c'est de l'autofiction, c'est une erreur, parce que lui, il réinvente complètement son personnage.
Oui.
Il brouille les pistes, c'est tellement intelligent, et c'est surtout avec de l'humour. Ce qui manque cruellement à l'autofiction, qui est le contraire de ça.
Ben oui. Donc la littérature anglo-saxonne, avec les Jay McInerney ou Bret Easton Ellis ou Lionel Shriver, globalement vous semble plus inspiré que la littérature française contemporaine.
Ah oui, beaucoup plus, oui. Mais je le regrette, ça. Je ne comprends pas pourquoi. Mais peut-être aussi, c'est une histoire de tradition. Nous, on a eu Balzac,
on a
Flaubert,
mais
eux ont eu Dickens, et ça continue. Je pense que puis c'est très difficile de raconter des histoires. C'est beaucoup plus difficile que de dire « Hier, j'ai rencontré Totor, je suis tombé amoureux de Titine, et puis mon père m'a fait ci, ma mère a pleuré. » Je crois.
Dit Éric Nehoff, qui signe des romans, et des romans magnifiques.
Oh là.
Bon, l'esprit français, se serait-il évaporé avec Sagan, alors, avec Paul Morand cet esprit français, parce que c'est ça aussi qui a longtemps infusé la littérature.
Oui, et puis le côté légende qu'avait Sagan. C'est vrai qu'à 18 ans, on se dit tous, si j'écris, ce sera un succès à la Bonjour Tristesse, je vais rouler en voiture décapotable, passer mes
aller jouer au casino.
Ah ouais, à boire du whisky, avoir un succès
vivre
fou.
Vivre follement.
C'est un bon moteur aussi. Les mauvaises raisons d'écrire sont aussi valables que les bonnes. Et Sagan, quand elle a disparu, il y a quelque chose qui s'est effacé. Je regrette beaucoup, ça m'a consterné de voir qu'on l'a laissé mourir dans la misère pour une histoire d'impôts. Parce que
vous êtes élevé contre ça d'ailleurs.
Ouais,
vous avez agi.
C'est la seule pétition que j'ai lancée et signée de ma vie,
oui.
Avec un insuccès total d'ailleurs.
C'est vrai.
Ah ouais, ce qui m'a surpris, même de la part d'écrivains qui disaient mais moi je paye mes impôts donc pourquoi elle non. Mais Sagan, c'était la France. On aurait dû lui.
Elle a fait rayonner la France à l'international.
Un buste de Marianne. Et puis c'était aussi, comme vous dites, l'esprit français, l'insouciance, la frivolité, le talent, la gratuité, toutes ces choses qui maintenant sont bannies.
Éric Nehoff, avec une certaine insolence, vous confiez de toute façon la littérature est faite pour 3000 personnes. C'est de la provocation, c'est vrai.
Mais c'est vrai, et encore je suis optimiste.
Vous êtes optimiste ?
Non, mais enfin, il y a 3000-5000 personnes qui savent vraiment ce que c'est, qui aiment ça. Mais tant mieux, parce qu'à partir de 10 000 exemplaires, c'est un malentendu. Il y a très peu de gens qui comprennent ce que c'est.
À partir de 10 000 exemplaires vendus, un livre est un malentendu.
Bah oui, je crois. Mais si ça...
Elle est terrifiante, cette phrase.
Mais non, pourquoi ?
Elle est cruelle.
Non, mais c'est comme les ortolans, c'est pas fait pour tout le monde.
Bon, Éric Nehoff, pourquoi ne mariez-vous pas plus souvent vos deux passions ? Parce que je vous ai posé la question sur le cinéma au début de cette conversation. Vous m'avez dit que vous n'avez pas eu envie de devenir scénariste. Mais quand même, marier le cinéma et l'écriture, scénariste, vous l'avez été par exemple il y a 20 ans pour Raoul Ruiz, dont vous avez co-signé le scénario du film Les Almes Fortes.
Oui, parce que...
Une fois donc ?
Une fois,
pas
parce
deux.
Que... Non, parce
pourquoi
que...
Pourquoi pas deux ?
Parce qu'on ne m'a pas demandé, et puis c'était tellement compliqué, ça a pris pratiquement 6 ans cette histoire, parce qu'au départ c'est Alexandre Astruc qui m'avait appelé, qui devait réaliser le film pour la télévision, le producteur a fait faillite, ensuite le scénario a eu l'avance sur recette pour le cinéma, il a fallu changer de réalisateur, tout le monde mettait son grain de sel, et on a été 5 ou 6 à la fin à avoir co-signé ce truc-là. C'est ça le cinéma, le problème, c'est que tout le monde a son mot à dire.
Donc vive la littérature.
Oui, ça c'est... Mais on est libre, c'est ça. Puis les choses que personne ne vous demande, même l'éditeur, même si vous avez un contrat et que vous êtes en retard, il ne va pas en faire un drame. Donc c'est quelque chose que vous faites pour vous, par plaisir.
Juste un dernier mot sur le cinéma. Le cinéma français se veut désormais sociétal, hein. Enfin, quand il ne s'agit pas de grosses comédies. Donc pour vous, le rêve s'est enfui, Éric Neuhoff. Vous datez la mort du cinéma français à quand ?
À la mort de Truffaut.
À la mort de Truffaut.
Le vrai basculement, et avec l'arrivée ensuite, enfin un petit peu avant d'ailleurs, de Luc Besson, des gens comme ça, la fin du scénario, la fin des vrais personnages, parce que ça comptait beaucoup aussi. Et comme vous dites, le cinéma est devenu sociétal, il n'y a plus que des sujets maintenant. Il n'y a plus d'histoire, c'est un film sur les migrants, c'est un film sur l'avortement, c'est un film sur le patriarcat ou je ne sais quoi. Et ça donne très rarement des œuvres d'art. Ça. Moi, je regrette l'époque où Sautet écrivait des films avec Jean-Loup Dabadie. C'est peut-être aussi pour ça que, modestement, je n'ai jamais voulu écrire pour le cinéma. C'est que quand on voit ce que ces deux-là ont réussi à faire, c'est confondant de talent. Et rappelez-vous, à l'époque, tout le monde les traitait un petit peu par-dessus la jambe. Mais quand on voit Vincent, François Paulet et les autres, César et Rosalie, les acteurs qu'il y avait, la façon dont Montand avait de ne pas finir ses phrases, cette justesse, cette émotion. Et aussi, c'était le reflet d'une époque, c'était tout ce qui vous arrive, c'était très masculin comme cinéma aussi. Tout ce qui vous arrive après la quarantaine, c'est toute la dégringolade. Et ça, ce pessimisme enjoué, c'est tout à fait inégalable.
Vous savez qu'en lisant Rentrée littéraire, votre nouveau roman, j'ai eu le sentiment de retrouver justement l'ambiance des films de Sautet.
Ah bon,
mais oui, voilà, avec ces lieux, ces personnages, ces sensations, ces superbes balades dans une douce nostalgie.
Et puis je voulais qu'on voit beaucoup Paris, parce que j'ai l'impression que Paris est absent des lieux dans les romans français, alors que, par exemple, quelqu'un comme Woody Allen, dans tous ses films, on voit New York, les restaurants, les librairies, les magasins, les rues, les taxis. Et ça, je pense que c'est un peu la chair d'une histoire. Et l'air du temps compte énormément dans un roman.
On retrouve tout de suite Éric Neuhoff.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Éric Neuhoff, il paraît que vous auriez détesté avoir un père écrivain. Pourquoi ?
Ah oui, ça, j'aurais trouvé ça dégoûtant.
Mais pourquoi ?
Ben, je sais pas, parce que j'aurais toujours eu l'impression qu'il pensait à autre chose, qu'il était ailleurs, qu'il avait une double vie. Oui, ça, j'aurais pas aimé du tout, ça. Mais ça doit pas être facile. Hein. Moi, heureusement, j'ai l'impression que mes fils ne lisent pas mes livres. Donc,
vous avez...
Et pas seulement les miens, d'ailleurs. Donc,
Non, mais vos fils vous ont-ils dit comment ils avaient vécu le fait d'avoir un père écrivain ?
Non, jamais.
Jamais ?
Non, non.
Pourquoi dites-vous que vous avez le sentiment qu'ils ne lisent pas vos livres ? Ils peuvent très bien les avoir tous lus sans forcément les commenter avec l'auteur.
Peut-être, mais c'est ce que j'aurais fait si j'avais eu un père écrivain, je les aurais lus et je ne lui en aurais pas parlé. Ça.
Vraiment ?
Ouais, c'est quand même quelque chose d'un peu secret d'écrire des livres.
Votre père, lui, dirigeait une agence bancaire, donc c'était un homme de chiffres et pas de lettres.
Non, pas du tout, mais ça ne le gênait pas. Mais je me souviens, pour nous, il commandait des livres dans des clubs, il achetait des collections complètes de Balzac, de Victor Hugo. Mais il aimait le cinéma, ça, il nous emmenait au cinéma. Mais ce n'était pas du tout contradictoire.
Mais si votre père avait été écrivain...
Je serais devenu banquier.
C'était ma question. Bon, Éric Neuhoff, on voit des lignées d'avocats, de médecins, de garagistes, de restaurateurs, de musiciens, des lignées d'ailleurs d'acteurs de plus en plus souvent, cette époque de l'image qui veut ça. Mais très rarement, on voit des lignées d'écrivains. Plus qu'un talent, ce don-là, celui de l'écriture, ne se transmet pas, c'est une grâce.
Non, c'est peut-être aussi quelque chose de très bénéfique, parce que j'imagine que les enfants qui voient leur père en robe de chambre en train d'écrire toute la journée à la maison n'ont pas envie de mener cette vie-là.
Je vous pose la question, vous venez de me dire effectivement, si vous aviez eu un père écrivain, vous n'auriez pas écrit, mais tout de même...
Je dis ça, je ne sais pas, mais il me semble...
C'est sans doute un talent qui s'impose à vous. on ne décide de rien.
Oui, alors que s'il y a la boulangerie à récupérer, c'est
voilà.
peut-être plus simple de reprendre.
C'est un choix.
Ouais, ouais. Mais ça doit être triste aussi pour un boulanger de voir que son fils ne veut pas prendre sa succession. Et peut-être que le boulanger, du coup, écrira un beau livre sur l'ingratitude de ses enfants.
Pour votre entrée en littérature, on vous avait qualifié de néo-hussard. Hein. Je crois que c'était Jérôme Garcin qui avait trouvé la formule.
Dans l'événement du jeudi, oui.
Voilà.
Mais je n'étais pas seul. Hein.
Mais alors oui, il y avait votre ami Patrick Besson, par exemple.
Il y avait
Tillinart. Voilà. Mais ça signait quoi, en fait, néo-hussard dans le milieu des lettres, il y a 40 ans? Parce qu'aujourd'hui, ça signifie plus rien du tout, cette formule. Mais il y a 40 ans... Mais
surtout que aujourd'hui, les nouveaux hussards sont plus si nouveaux que ça. Mais il y a 40 ans, oui, c'était une formule, c'était un bon coup journalistique. La preuve, c'est que
c'est resté.
C'est vaguement resté comme étiquette.
Et parce mais que les journalistes sont paresseux.
Non,
donc,
mais bon, moi...
Ils se sont emparés de ça.
Je crois que ça ne nous choquait pas d'être inscrit dans la lignée de Blondin, Nimier, Déon et compagnie. Oui, même si c'était un petit peu nous surévalué, mais tant mieux, ça. Oui, c'est la dernière fois qu'il y a eu des nouveaux quelque chose, après les nouveaux philosophes,
voilà.
Les nouveaux romantiques. Il
voilà.
faudrait trouver les nouveaux autofictifs un jour. Là.
Bon, forcément, Éric Neuhoff, vous n'écrivez pas aujourd'hui comme vous écriviez il y a 40 ans, mais vos sujets, vos obsessions restent les mêmes, patinés par le temps.
Oui, un petit peu. Ben, je vous dis qu'on n'apprend rien, hélas. Je crois qu'on... C'est un peu comme un galet sur la plage, on polit son truc.
J'ai le sentiment qu'à 20 ans, vous étiez déjà nostalgique.
Ouais, c'est vrai. J'aimais les films en noir et blanc, j'aimais les films de Louis Malle avec Maurice René. Mais si j'avais su qu'un jour je serais nostalgique des années 80-90, ça m'aurait fait un drôle d'effet. Et là, c'est presque le cas maintenant.
Dans Rentrée littéraire, donc votre nouveau roman qui paraît chez Albin Michel, vous écrivez ça d'ailleurs une trentaine de pages avant la fin du livre, vous écrivez... C'était pas ennuyeux d'écrire, mais il y avait tellement d'autres choses à faire. Cette pensée de l'un de vos personnages, en réalité, c'est parfois la vôtre. C'est pas ennuyeux d'écrire, mais il y a tellement d'autres choses à faire.
Oui, mais c'est vrai. C'est que moi, j'écris quand vraiment, j'ai pas de déjeuner, il n'y a pas de film à voir, j'ai pas de rendez-vous. Et puis moi, j'écris vite et mal. Hein. C'est donc,
il écrit vite et mal.
Non, mais c'est vrai, ça. Non, on fait ça dans des coins, sur des petits bouts de papier, et puis on met tout ça en forme à la fin. Non, mais c'est pas...
Vous écrivez sur des bouts de papier, comme
ouais,
ça vous attrapez des phrases et des idées quand vous êtes en train de boire un verre dans une brasserie ou quand...
Oui, mais j'ai pas toujours de stylo sur moi, alors je me dis, je vais me souvenir de ça, et puis on oublie. Mais non, mais j'écris sur des feuilles volantes, et puis ensuite, on essaye de les mettre à peu près ensemble.
Beaucoup des écrivains que j'ai eu la chance de recevoir donc dans cette émission m'ont confié qu'ils se levaient à 4h du matin quand le monde dort.
Quelle horreur !
Voilà, pour écrire.
Mais bon. Pourquoi faire sauf s'ils vont à l'usine à 9h du matin ? Mais pourquoi se lever à 4h ?
Si, je vous pose la question.
Amélie Nothomb
fait
ça.
Vous n'en êtes pas.
Ah non, moi j'écris n'importe quand, presque n'importe où, mais plutôt chez moi d'ailleurs. Mais non, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas des horaires de bureau pour écrire. Non, mais parce qu'on ne peut pas écrire 12 heures par jour, en plus.
Comme si s'extraire du monde amenait à plus de concentration.
Ouais, mais du coup, on est content de retrouver le monde après. Mais moi, le problème, c'est qu'au bout de 2 heures, j'en ai marre, je m'ennuie. Donc, c'est pas...
Ah, vous avez des cycles courts d'écriture.
Oui, j'ai des amis qui peuvent passer 10 jours à travailler 14 heures par jour à finir un livre. Ça, je les admire, parce que moi, vraiment, au bout de 2 heures, j'ai envie de faire autre chose.
Écrire est facile. Il suffit de fixer la feuille blanche devant vous jusqu'à ce que des gouttes de sang perlent sur votre front. Jane Fowler, scénariste pour Hollywood, qui est décédée en 1960. Écrire, en fait, c'est le plus masochiste des plaisirs, c'est ça ?
Ah non, c'est pas masochiste. Si, c'est masochiste au sens où on sera le seul à ne pas pouvoir lire le livre. Bah oui, parce qu'on sait pas, on peut pas lire son
livre.
Vous
voulez dire que...
On peut pas lire son livre comme si...
Comme un véritable lecteur.
Ouais.
On est trop critique.
Trop critique.
Trop fier aussi.
Non, fier, faudrait
mais
pas.
Non, mais attendez, quand je dis fier, c'est qu'on a une haute idée de ce que l'on doit produire. Je ne dis pas fier de l'œuvre produite, mais on veut viser si haut qu'on risque d'être agacé par justement l'altitude qui manque.
Ah bah c'est ça la catastrophe, c'est qu'entre ce qu'on imaginait au départ et le résultat final, il y a quand même une baisse terrible, on n'arrive jamais. Et puis surtout, on n'a pas le bon œil pour lire ses propres chapitres. Il faut laisser les autres le faire si jamais ça les tente.
Il y a peu, trois de vos premiers romans ont été réédités.
Oui.
Vous les avez relus ou
non,
pas?
Non, non, pas du tout. Non.
Vous avez refusé?
Bah oui, j'ai tellement d'autres livres à lire. Et puis si je les avais relus, soit ça m'aurait consterné, soit je me serais dit, dis donc, c'était quand même pas mal. T'as sacrément baissé depuis. Alors, je voulais pas.
Bon, dans son nouveau roman, Un barrage contre l'Atlantique, Frédéric Becbédé, que vous connaissez
très, très
si
bon
bien,
livre, d'ailleurs.
Excellent livre. Frédéric Becbédé écrit « La littérature consiste à attendre la phrase dont personne n'a besoin ». Vous lui répondez quoi, Éric Neuhoff?
Pas seulement la phrase, mais le livre dont personne n'a besoin.
Vous êtes encore plus pessimiste que lui.
Il a entièrement raison. Non, mais si personne n'en a besoin, c'est qu'elle n'existait pas avant. Qu'elle est unique, et c'est ça la littérature.
C'est, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est sa préciosité, ouais, c'est sa grâce.
Ouais, ouais, puis c'est la surprise, c'est qu'il y a une phrase au milieu de tout ce magma qui tiendra un peu la route et qui restera.
Rentrée littéraire est un roman que vous avez porté en vous longtemps. Rentrée littéraire vient de paraître chez Albin Michel. Ce roman ne se lit pas, il se boit. Oui, oui, je l'ai bu d'une traite.
Cul sec, alors.
Avec délectation, avec délectation. Merci infiniment,
merci
Eric
à
Neuhoff,
vous.
Et à très bientôt.
Ah ben, j'espère.
Moi aussi.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.